Bienvenue aux Apatrides Anonymes sur choc.ca. C'est Marie-Ève à l'animation pour cette édition du 12 juin 2025. Les Apatrides Anonymes, vous le savez, c'est votre tour bimensuel des actualités d'ici et d'ailleurs, en lien avec les enjeux migratoires, le racisme, les droits de la personne, l'extrême droite et les questions qui touchent au peuple autochtone. Et donc, par les temps qui courent, disons qu'on a du pain sur la planche. Et en l'absence de Mathieu, qui se remet tranquillement de son décalage horaire, eh bien, Simon et moi, on sera en duo. Simon qui est actuellement à la console. Simon, puissiez-vous nous parler?
Je puis. Comment ça va, Marielle?
Ça va bien, toi?
Oui, merci. Salut tout le monde.
Tu vas nous présenter les actualités provinciales et nationales en lien avec l'immigration?
Ouais, ce sera principalement au niveau fédéral, parce qu'il se passe énormément de choses actuellement.
Oui, il y a du stock, hein?
Il y a vraiment beaucoup de stock. Des projets de loi. Je parle de l'entente des tiers pays sûrs qui est recontestée de nouveau pour des raisons différentes. Ouais. Je vais vous expliquer tout ça tantôt.
Parfait. Puis tu vas nous amener en Afrique aussi. Où exactement?
Namibie, c'est très rare.
Ah, tiens.
Libye, j'ai oublié, il faudrait que je refouille mes notes.
Rwanda, ça se peut-tu?
Non, pas Rwanda. Okay. Écoute, ce sera une surprise.
Bon, ben, parfait. On aime ça. De mon côté, je vais vous parler de racisme et de profilage policier. Et aussi, vous présenter notre traditionnel agenda militant. Et je vais vous revenir dans quelques secondes avec un portrait de la situation dans les Balkans. On le sait, les Balkans sont la route migratoire terrestre la plus empruntée pour gagner l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Nord. Mais la région est aussi en passe de devenir ce que Human Rights Watch qualifie d'entrepôt à migrants, littéralement. C'est que, en mars, la Commission européenne a proposé d'implanter des centres de retour pour les demandeurs d'asile dans l'objectif de faciliter leur retour, de là le nom, hors de l'UE. Dans les cas où leur demande d'asile aurait été refusée et qui ferait face à une obligation de quitter le territoire. Ce dispositif-là permettrait aussi aux États membres d'ouvrir des centres dans des pays tiers désignés comme « sûrs » entre guillemets, pour y envoyer des demandeurs d'asile en attente de traitement de leur dossier. Plus concrètement, il y a le ministre britannique Keir Starmer qui a annoncé en mai avoir entamé des discussions avec un certain nombre de pays pour la mise en place de ce type de centre-là, dont la Bosnie-Herzégovine, ainsi que la Serbie, l'Albanie, la Macédoine du Nord et le Kosovo. Mais le premier ministre albanais a rapidement rejeté cette idée-là en rappelant que son pays accueille déjà deux centres de rétention italiens pour personnes migrantes en situation irrégulière. Human Rights Watch juge que l'externalisation de la responsabilité des migrants et des demandeurs d'asile est, et je cite, intrinsèquement problématique et craint aussi une exacerbation des violations des droits des migrants dans les pays tiers. L'ONG s'inquiète particulièrement de la Bosnie parce que de la situation là-bas déjà, c'est que la loi bosniaque sur l'asile prévoit un délai de traitement de 6 mois des demandes, sauf que dans la réalité, obtenir une décision peut prendre jusqu'à 344 jours, donc presque un an. Ça, c'est selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et ça, ça a pour effet d'empêcher les personnes migrantes de travailler durant 9 mois après leur enregistrement. Human Rights Watch craint donc une hausse des abus à cause de détentions prolongées qui peuvent aller jusqu'à 18 mois. Un exemple d'abus. D'après les fonctionnaires du Service des affaires étrangères qui gèrent les centres de détention de l'immigration en Bosnie, les migrants et demandeurs d'asile sont généralement détenus pour des raisons de sécurité nationale, certains pour des accusations criminelles, ou bien encore quand il y a des chances que le rapatriement forcé ou de réadmission dans le pays d'entrée sont élevés. Mais ce qui arrive, c'est que dans tous les cas, les détails des accusations sont jamais communiqués aux détenus, pas plus qu'à leur avocat d'ailleurs, surtout lorsqu'il s'agit d'une menace présumée pour la sécurité nationale. Et à tout ça, ben, ça ajoute les conditions de vie indignes dans les camps, qui sont régulièrement dénoncées, tandis que de nombreuses personnes migrantes vivent aussi dans des squats insalubres. La Bosnie-Herzégovine, elle compte 4 centres d'accueil pour migrants qui abritent en tout 546 personnes, donc c'est pas tant que ça comme capacité d'hébergement, si on peut appeler ça hébergement. Et les tensions, ils sont parfois vives. Par exemple, à la fin mai, il y a une fusillade qui a éclaté entre migrants près du centre d'accueil de Blajuj, qui est près de Sarajevo, lors de laquelle 6 d'entre eux ont été blessés et ont dû être transportés à l'hôpital. On sait aussi que depuis la signature d'un accord bilatéral avec la Croatie, les autorités croates refoulent systématiquement les exilés entrés de manière irrégulière vers la Bosnie, ce qu'on appelle des pushbacks, et malgré que la pratique soit interdite dans l'Union européenne. Et puis lors de ces refoulements-là, souvent très violents, plusieurs migrants ont témoigné avoir été emprisonnés puis contraints de signer un document qu'ils ne comprenaient même pas parce que c'était pas dans une langue qu'ils comprenaient.
On sait c'est quoi ce document ou?
Ah, des documents, non, on sait pas.
OK, qu'on non. S'engage, par exemple, à ne pas remettre pied sur le territoire.
Par exemple, okay. Ou ouais, c'est ça. Et si le pays est toujours un point de transit et un foyer temporaire pour les migrants et demandeurs d'asile originaires, principalement d'Ukraine, de Serbie, du Kosovo, de la Turquie, de la Syrie, d'Afghanistan, du Pakistan et d'Iran, le nombre de transits a très fortement chuté ces dernières années. Plus de 34 400 personnes étaient entrées dans le pays en 2023 contre un peu plus de 25 000 en 2024. C'est donc une baisse là d'environ 10 000. Puis depuis le début de l'année 2025, c'est seulement 3 000 personnes étrangères qui sont rentrées de manière irrégulière sur le territoire. Qu'il y a beaucoup de migrants qui se retrouvent dans les centres ou dans les camps ou dans les squats, c'est qu'il y a plus de 4 000 ressortissants de pays tiers qui ont été renvoyés en Bosnie en 2023 par des États membres de l'Union européenne dans le cadre de réadmission, d'accords de réadmission, ces accords-là facilitent le retour des personnes dans le pays par lequel elles ont transité. Et puis la même année, les autorités bosniaques ont transféré 298 personnes dans le cadre d'accords de réadmission, la plupart vers la Serbie, et ont aidé aussi au retour volontaire, entre guillemets, de 381 personnes, majoritairement des ressortissants turcs. Il y a seulement 4 personnes qui ont obtenu le statut de réfugié cette année-là. Ça, c'était en 2023. Sur les 147 dossiers déposés, si on fait un comparatif, en 2022, les autorités avaient accordé à 349 demandeurs d'asile le statut de réfugié. Dernier chiffre, en 2023, les autorités bosniaques ont pris 683 décisions de détention, ce qui est énorme, et 79 décisions d'expulsion. Mais pour les décisions d'expulsion, on ne sait pas trop là, combien de ces décisions-là ont réellement été exécutées. Donc, à surveiller les Balkans, qui redevient une route assez chaude après que la route des Balkans a été fermée en 2015 suite à des forts mouvements migratoires, mais ça va être vraiment une région à surveiller.
Une route verrouillée de plus en plus.
Exactement. Alors toi, Simon, tu nous as fait quelques choix musicaux.
J'ai fouillé dans les palmarès de Choc. Donc le premier, c'est une pièce d'un album qui est dans le palmarès local de Choc. C'est le duo montréalais Crab.
Ah, oh, moi j'aime beaucoup Crab.
Ben c'est un de nos chouchous, je dirais. Je pense que ça fait 3-4 fois qu'on les fait jouer.
C'est très bon en show.
Oui, à voir. Ouais. C'est bordélique un peu. c'est intense. Ils décrivent eux leur musique comme étant du présent punk. C'est du dernier album de Crab, Expression radicale.
C'est drôle pour faire. C'est pas du de l'avant-punk
ou du post-punk. Ou du post-punk. C'est de l'actuel punk. Mais on va entendre la pièce Des trains. Qui est sur un album qui est des reprises, en fait, de leur propre répertoire, mais qui ont été réenregistrées, réarrangées. Donc, qui ont puisé dans leur répertoire qui date du début des années 2000 ou, en tout cas, il y a une couple d'années.
Ouais.
C'est leur 15e album, hein, quand même.
Oh,
c'est ça.
Prolifique.
Et si leur Bandcamp est à jour, il y a une seule date de show qui est prévue, c'est le 22 juin à Toronto, si jamais vous êtes dans le coin. Donc, on va écouter Crabbe, la pièce des trains. Dans la maison
C'était très bon, n'est-ce pas, Simon?
Ça l'était. Ben, c'était un de mes choix, donc forcément.
Bien sûr. Alors là, toi, tu nous parles d'immigration, surtout au fédéral, tu dis.
Principalement fédéral. Ben, j'avoue que c'était un peu difficile de faire des choix parce que dans la liste, avant de produire l'émission, on se partage toutes sortes d'articles et il s'est passé tellement de choses dans les dernières semaines que je savais vraiment plus où donner de la tête. Il y a le contexte toxique, peut-être entre Ottawa et Washington, qui a l'air de servir de prétexte à nous enfoncer dans la gorge toutes sortes d'aberrations au nom de la sécurité, de la souveraineté canadienne, la construction d'un pipeline, des nouvelles dépenses militaires complètement mirobolantes, le renforcement de la frontière, toutes sortes de nouvelles attaques législatives contre les personnes migrantes et immigrantes. Ou Québec qui met encore la hache dans le pec et qui parle de seuil historiquement bas à 25 000 par année. Mais aujourd'hui, c'est ça, je me concentre sur le fédéral. D'abord, dimanche dernier avait lieu au complexe Guy Favreau et plusieurs autres endroits au Canada des manifestations, celle à Montréal organisée à la dernière minute par Solidarité sans frontières et d'autres groupes contre le projet de loi C2 du gouvernement Carney qui est jugé xénophobe et anti-migrant. J'allais dire pas le Carney, mais le projet de loi, mais on le sait plus, là, finalement.
Non, c'est ça.
Quelques points marquants de ce projet de loi qui est un alignement assez clair avec les politiques états-uniennes en immigration. Donc, empêcher les migrants de demander l'asile après un an de présence au Canada. Politique qui serait rétroactive jusqu'en 2020. rendre encore plus difficile la demande d'asile pour les migrants venant des États-Unis, donner au gouvernement plus de pouvoir pour annuler des milliers de permis et rejeter des demandes d'asile, ouvrant la porte à des déportations de masse. Il y a des dispositions précises qui sont prévues pour suspendre le traitement des nouvelles demandes, parfois en ciblant certains groupes précis, en tournant le dos à nos propres lois et au droit international qui garantit que chaque demande d'asile doit être évaluée individuellement. Je pense qu'on le répète à chaque émission. Hein, puis la plupart des pays ne respectent plus ce principe de droit pour lequel ils se sont engagés en général. Et finalement, éliminer plusieurs barrières de protection de la vie privée avec potentiellement plus de violations de droits qu'actuellement. Donc, des pouvoirs renforcés et des budgets augmentés pour les services de renseignement, l'agence des services frontaliers et différents corps de police. Pendant ce temps-là, l'argent pleut sur la sécurité et l'armée. On apprenait récemment que les audiences en demande d'asile, dont les délais sont déjà extrêmement longs, jusqu'à 4 à 5 ans depuis le dépôt d'une demande. Bref, on apprenait qu'il y a de plus en plus d'annulations de dernière minute, souvent sans même qu'une raison ne soit donnée ni aux demandeurs ni à leurs avocats, pas plus qu'on ne donne de date de report de l'audience, phénomène qui, selon plusieurs de ces avocats en immigration, s'est multiplié dans les derniers mois et serait presque en voie d'être une nouvelle normalité. Pour l'instant, c'est entre 20 et 25 des audiences qui sont maintenant annulées à la dernière minute, alors que c'était autrefois un phénomène plutôt marginal, pour lequel on donnait toujours une date de report et la raison de l'ajournement, souvent à cause de raisons techniques comme l'omission ou la non-validité d'un document ou l'absence d'un interprète, par exemple. Ces annulations que je qualifierais de fantômes, puisqu'elles sont données le jour même sans aucune explication, ça crée énormément de stress, évidemment, d'angoisse, ça a des répercussions sur la vie familiale, professionnelle, sur l'accès aux services, sur la santé. Ça nécessite souvent de se repréparer complètement pour son audience, encore une fois. Semble-t-il que récemment, il y a eu aussi beaucoup de démissions de commissaires à l'immigration et au statut de réfugié, ce qui contribue à une mauvaise organisation qui elle-même contribue aux démissions parce que les commissaires ne veulent pas nécessairement travailler dans ce contexte désorganisé-là.
Ben oui.
On reste au fédéral, mais je change de sujet. On apprenait fin mai que l'entente sur les tiers pays sûrs était de nouveau contestée devant les tribunaux. Plus précisément, il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en cour fédérale par la South Asian Legal Clinic of Ontario et l'Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés qui aimerait faire la lumière non pas sur la mécanique générale de l'entente des tiers pays sûrs ni sur certains articles dans le détail, mais on veut vraiment aller à la racine, à savoir est-ce que les États-Unis sont encore un pays sûr pour les personnes migrantes en recherche de refuge et comment est-ce que cette préoccupation-là, elle est évaluée.
J'invite les personnes à aller faire un petit tour à L.A. actuellement, si vous vous posez la question.
Oui, il y a des beaux palmiers, paraît-il. Non, ben tu réponds un peu à la question. Mais en fait, c'est une question qui est légitime depuis le début de cette entente-là. On postule que les deux pays sont des pays sûrs pour les réfugiés ou les migrants qui passent d'un pays à l'autre. C'est encore plus, comme tu dis, depuis légitime ce questionnement-là depuis quelques semaines avec... Tu donnais Los Angeles comme exemple, mais il y en aurait d'autres aussi. Depuis, finalement, le retour au pouvoir du Taco Cheese Whiz, je ne sais plus comment l'appeler. L'entente elle-même prévoit explicitement que le gouvernement fédéral doit surveiller, peut-être pas en temps réel, mais régulièrement le traitement réservé aux demandeurs d'asile aux États-Unis afin de suspendre temporairement l'application de l'entente ou certaines dispositions. Si c'est nécessaire, des examens de conscience dont on sait, à cause de certaines demandes d'accès à l'information, qu'ils ont eu lieu à 4 reprises en 2004 et 2009, que le gouvernement fédéral a évalué la sûreté des États-Unis. Ouais. Depuis 2009, aucune information, on est vraiment devant un trou noir juridique, c'est donc impossible de savoir si Ottawa
respecte...
Depuis
2009?
Depuis 2009, je dis pas que Ottawa n'a pas fait d'examen du niveau de sûreté des États-Unis, mais il n'y a pas moyen de savoir s'il y en a eu. Donc, je vais paraphraser une des avocates impliquées dans le recours. Nous devons savoir quel rapport sur les droits de la personne, quels experts, quels articles d'actualité et quels témoins sont utilisés pour prendre une telle décision. Tout ceci doit être rendu public et aussi la manière dont ils prennent leur décision. Donc, est-ce que les dernières évolutions au sud de la frontière vont mener à un nouvel examen du caractère sûr des États-Unis? Ça non plus, on n'en sait malheureusement rien. Dossier à suivre, donc, ce nouveau chapitre dans la longue saga de contestation judiciaire de l'entente des tiers pays sûrs. Dernière brève recommandation de lecture, c'est une lettre ouverte signée par 8 associations québécoises de défense de droits des personnes trans, dont Aide aux trans du Québec, Centre de lutte contre l'oppression des genres ou encore Mouvement transféministe, qu'il y a une lettre ouverte qui a été publiée dans Pivot.Québec, le titre « Les personnes trans prises dans l'étau de l'entente des tiers pays sûrs ». On le sait, les personnes trans sont dans le viseur de l'administration Trump. Énormément de décrets transphobes ont été signés, la plupart qui seront probablement invalidés par les tribunaux, mais actuellement, ils sont appliqués. Il faut ajouter à ça le discours politique ouvertement anti-trans qui engendre un climat de haine et de violence parmi la population. Donc, ça va au-delà du simple droit ou des dispositions réglementaires. Les personnes transmigrantes ont peur pour leur sécurité aux États-Unis et plusieurs souhaiteraient migrer vers le Canada pour se sentir moins en danger, mais le dispositif législatif actuel ne le leur permet pas si elles ont déjà demandé refuge aux États-Unis. Mm. C'est pourquoi les groupes signataires demandent le retrait du Canada de l'entente sur les tiers pays sûrs et que soit facilité l'accueil des personnes transmigrantes en provenance des États-Unis.
Ouais.
Donc voilà ma petite sélection d'actualité fédérale. Évidemment, comme je disais, dans les prochaines émissions, il va falloir qu'on fasse un gros rattrapage et qu'on parle du provincial aussi.
Oui, on va creuser, oui, parce que ça va pas très bien au provincial
non plus.
Non. Notamment avec le PEC, là, puis...
Ouais, ben qui est encore une mise à la poubelle de milliers de dossiers.
Exactement.
C'est pratiquement ça. Donc,
ouais. Bon, alors, comme nos nouvelles sont très réjouissantes, on va alléger ça pas mal pendant cette émission. Donc, on va aller écouter un groupe, le groupe Sleepy Time Guerrilla Museum, qui est originaire d'Oakland, en Californie. C'est un groupe dont la musique est difficile à catégoriser, un mélange de classique contemporain, de rock progressif, d'industriel, de métal et d'improvisation. Il y a des percussions, de la guitare électrique, de la basse, du violon, mais aussi des instruments qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et donc, ce groupe, Sleepy Time Guerrilla Museum, ont été en pause, une longue pause de 13 ans. Et donc, le groupe s'est reformé et donc a sorti un quatrième album en février 2024 intitulé « Of the Last Human Being ». Mm. Disons que c'est dans le...
Ça annonce la fin du monde.
Exact. Peu, mais... j'ai choisi d'en faire jouer parce que je les ai vus en concert en mai dernier.
Ah, chanceuse.
Dans le cadre du Festival de musique actuelle de Victoriaville. Ils terminaient une tournée canadienne et là, ils vont sillonner l'Europe cet été. En tout cas, pour moi, ça a été une véritable révélation en concert à voir absolument. Alors, on va écouter la pièce « Salamander in Two Worlds ».
Growing strong,
Alors voilà, c'était Sleepy Time Gorilla Museum.
Je sais pas s'il y en a qui avaient des headphones, des écouteurs, mais il y a plein d'effets stéréophoniques assez déstabilisants. Là, comme...
Alors maintenant, Simon, actualités africaines.
Oui, du continent africain, j'aurais pu vous parler de certains archipels, d'un côté les Canaries, de l'autre Mayotte, où dans les deux cas, le contexte migratoire est extrêmement difficile. Des arrivées par centaines, des conditions d'accueil qui se dégradent, et dans le cas des îles Canaries, beaucoup de naufrages meurtriers, incluant plusieurs enfants noyés. Vers la fin de l'été, on sera peut-être plus en mesure de vous faire un bilan plus complet de cette haute saison des traversées des mers et des océans, mais pour l'instant, je vais rester sur le continent. Dans le Maghreb, on va aller en Libye pour commencer, où les conditions pour les personnes migrantes sont parmi les pires de la planète, au point où de plus en plus de vols de retour dits volontaires sont analysés en collaboration pour la Libye, c'est relativement nouveau comme phénomène, puis c'est le gouvernement libyen et l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, et aussi en collaboration avec les pays d'origine où les gens souhaitent être rapatriés. Donc, deux vols tout récents de migrants qui n'en pouvaient plus du cauchemar libyen. On met le terme volontaire sur on dit retour volontaire, mais on le met entre gros guillemets dans le sens que oui, effectivement, ce sont pas en soi des expulsions. Mais les migrants qui en arrivent à demander à l'OIM d'être mis sur un vol de retour, c'est pas par désir nécessairement de retourner vers le pays d'origine, mais parce qu'ils sont malades, qu'ils sont physiquement ou psychologiquement blessés, brisés, ou encore à bout de ressources dans cet épicentre mondial de la traite de personnes. Je pense que c'est là encore aujourd'hui. Donc, deux vols remplis à pleine capacité, fin mai, en tout plus de 300 passagers, un premier avion à destination du Tchad et l'autre vers le Mali. Donc, comme je disais, c'est un phénomène relativement nouveau en Libye, ces vols de retour, mais c'est une pratique qui est courante en Tunisie depuis plusieurs années, entre autres en Tunisie. Par exemple, il y a eu un vol récent organisé par l'OIM en avril vers la Guinée-Conakry. Donc, des vols de retour, il y en a aussi eu dans les années précédentes, mais Infomigrant nous rapporte qu'il y a une forte augmentation des demandes, particulièrement depuis la Libye, et que l'OIM entend multiplier les ententes avec certains gouvernements pour accélérer le phénomène, qui engendre souvent un deuxième choc pour les migrants qui reviennent les poches vides et complètement maganés, et que la réinsertion est souvent aussi difficile que d'arriver dans un pays étranger.
Oui, puis en plus, ben, c'est sans compter, j'imagine, la honte qu'ils doivent ressentir de retourner... de pas avoir réussi.
Oui, d'autant plus que cette honte, parfois leur départ avait été financé par des proches, des membres de la famille qui souhaitaient recevoir en retour de l'argent une fois qu'on a un job en Allemagne ou en France, par exemple.
Non, c'est une situation impossible.
C'est un échec pour tout le monde.
Ouais.
Parfois quand même considéré comme des faibles ou des parias. Donc non, c'est pas facile. Donc l'un des deux vols de retour dont je parlais était à destination du Mali, donc on comprendrait que les personnes qui préfèrent retourner sont vraiment au bout du rouleau parce que la situation est vraiment pas très belle au Mali. Je vais vous parler du contexte politique malien où la junte se maintient au pouvoir de force à Bamako depuis maintenant pratiquement 5 ans, malgré son engagement à ce que des élections aient lieu en mars 2024, donc l'échéance est très dépassée. Le dernier coup d'éclat du pouvoir militaire du président Assimi Goïta, membre du Comité national pour le salut du peuple, son dernier coup d'éclat date du 13 mai, c'était en réaction à une manifestation pro-démocratie qui avait eu lieu quelques jours avant. Ça a pris la forme d'un décret présidentiel dans lequel on a annoncé la dissolution des quelques 300 partis politiques officiels qu'on trouve au Mali, ce qui évidemment est contraire à la constitution du pays, et contraire à ses propres engagements au général Goïta, qui plutôt que de se pencher vers un calendrier démocratique ou électoral tel que prévu, il a plutôt choisi de renforcer son autorité. Et au passage, on en a profité pour interdire TV5 Monde.
Et donc?
Dans le décret, il y a des perles de 9 langues. Par exemple, on indique que l'objectif de cette dissolution de masse, j'ouvre les guillemets, est de gérer la vie politique de façon sereine et en harmonie avec notre option de souveraineté afin de donner satisfaction au peuple malien.
Bien sûr.
N'est-ce-tu pas beau? Donc voilà dans quel régime seront rapatriés les malheureux candidats au retour volontaire analysé par l'OIM. Toujours dans la thématique des retours, cette fois-ci des retours qu'on ose moins définir comme étant volontaires, mais pourtant toujours organisés sous l'égide d'une agence des Nations Unies, celle pour les réfugiés, le HCR. Des retours de ressortissants rwandais qui avaient trouvé refuge en RDC, mais qui depuis la prise du pouvoir du groupe rebelle AFC M23 se sont fait dérégulariser, si je peux m'exprimer comme ça. Ou apatridisés.
Ah ouais.
La plupart, c'est ça. Alors que depuis un mois, il y a eu pas moins de 1 800 personnes d'origine rwandaise au statut variable, donc c'est plus qu'une déportation de masse, qui ont été remises par les paramilitaires congolais au HCR, qui les a donc rapatriés au Rwanda. Les personnes renvoyées, et bien sûr les ONG présentes dans la région, dénoncent ce retour forcé, en plus de critiquer sévèrement à la fois les conditions de transit et les conditions d'accueil une fois revenus sur place. Je parlais de retour dits volontaires tantôt. C'est une région habituée à ce phénomène, des retours plus ou moins volontaires, donc plus de 80 000 retours dits volontaires dans la région depuis 15 ans. Mais dans ce cas-ci, ça s'est vraiment pas passé comme d'habitude. À la défense des travailleurs des Nations Unies, tout ça s'est produit dans la précipitation sous la menace armée de groupes rebelles. Il fallait donc agir vite. Mais parmi les critiques, on avance quand même le fait que de telles situations pourraient être anticipées. On sait qu'elles peuvent se produire, donc il faudrait prévoir en conséquence. On déplore aussi le fait qu'il n'y ait pas eu de tentative de négociation ou de mitigation des facteurs qui ont rendu cette opération très pénible, sur laquelle je vous invite à lire des témoignages dans un article d'Infomigrant dont le titre est « Rwanda, les rapatriements des ressortissants rwandais réfugiés en RDC vécus comme un retour forcé ».
Oui, c'est ça. Là, si on veut continuer la Love Langue, ce serait des retours forcés volontaires.
Je pense qu'on va juste dire retour, finalement. Ça t'annule un peu. Donc, je vais terminer avec une autre suggestion de lecture, un article de l'agence France Presse sur la Namibie, un pays dont, ici aux Apatrides, je crois qu'on n'a jamais parlé. Un pays immense, directement au nord de l'Afrique du Sud, sur l'Atlantique. Vous en apprendrez sûrement beaucoup sur le génocide presque total de deux des ethnies du pays, les peuples Herero et Nama, massacre d'au moins 70 000 personnes perpétrées par les troupes coloniales allemandes au tout début du 20e siècle suite à une révolte populaire. C'est aussi un épisode de notre histoire qu'on connaît.
On connaît peu.
Peu ou pas. Le territoire était alors une colonie allemande depuis 1884 nommée Sud-Ouest Africain Allemand. Donc, Africain Allemand, volontaire forcé, on est toujours dans les contradictions. Le 28 mai dernier, date qui correspond en Namibie au jour du souvenir de ce génocide, la présidente namibienne, pendant les toutes premières cérémonies officielles de commémoration à être organisées, elle a réitéré les demandes de réparation de son gouvernement envers celui de l'Allemagne, qui avait finalement reconnu les faits en 2021 après s'être fait tirer l'oreille pendant des années. Mais depuis ce temps-là, les négociations sur les termes de la réparation ne mènent nulle part. Il y a de l'argent qui a été promis par Berlin, mais compte tenu de l'ampleur des pertes dues à la colonisation et au génocide, la Namibie juge l'offre allemande largement insuffisante. Donc, ça conclut nos actualités africaines pour aujourd'hui.
C'est bien. Merci, Simon. Ça fait un petit... Ben, il n'est pas petit en géographie, mais
non,
en termes de nombre de pays, mais assez bien.
Si on prend seulement la Namibie, c'est déjà quand même assez grand.
Oui,
aussi,
c'est ça. Écoute, tu nous présentes ton deuxième choix musical.
Oui, on va aller écouter un mélange assez original d'indie pop, indie rock et de jazz, et je rajouterais même un peu de flamenco. C'est May Simonnes, qui est une guitariste, chanteuse, compositrice basée à Brooklyn. Ses paroles sont en anglais et en japonais. On va écouter la pièce-titre de son album « Animaru », qui a été tout récemment lancé, qui est au palmarès international de Choc. Si vous aimez ça, sachez qu'elle sera sur scène demain, vendredi 13, à Montréal, au Ritz PDB. Il reste des billets, j'ai vérifié, alors on y va. On va écouter « Animaru » de May Simonnes.
Non, t-shirts. Bok no makura. Four stops away from your favorite station. I am not a resource. I am not a ribbon. I am not a cardboard box.
Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca avec les Apatrides Anonymes. On écoutait la pièce Animalou de l'artiste May Semonès.
Tu l'as bien
Très
prononcé.
Bon choix. Ouais, j'ai beaucoup aimé sa voix et l'ambiance musicale. Ouais.
Ouais, on est transporté à Brooklyn automatiquement.
Et puis, donc moi, je vais vous parler. Je reviens dans le dossier des interpellations aléatoires policières. Dans ce dossier-là, le SPVM a précisé dernièrement de nouvelles règles qui vont s'appliquer dans sa politique. Selon le SPVM, la nouvelle politique d'interpellation vise à clarifier le lexique utilisé dans le cadre des activités policières. Tu vas voir, Simon, on n'est pas loin. Tout est dans tout.
On parlait de 9 langues. Tantôt, j'ai hâte d'en savoir plus.
Ben écoute, c'est pas aussi spectaculaire, là. La nouvelle politique stipule, par exemple, qu'un policier peut procéder à une interpellation basée sur des « faits observables », entre guillemets, dont la définition a soi-disant été précisée, sauf que pour Linda Kellil, qui est responsable des dossiers politiques à la Ligue des droits et libertés, le critère de « faits observables » est ben trop flou, parce qu'en fait, il est pas vraiment défini non plus. Ouais. Elle aurait souhaité que, minimalement, ce critère-là soit remplacé par la norme juridique de « soupçon raisonnable ».
Ouais, parce que tout est un fait observable.
Exactement. Surtout la couleur de la peau, hein? C'est pratique pour le profilage.
Oui.
Donc, pour en revenir à la politique, les policiers vont devoir signifier clairement à la personne interpellée qu'elle est libre de quitter les lieux à tout moment. Et pour contrer le profilage racial, le SPVM, va mettre en place cet automne un comité de vigie composé de 6 personnes qui aura pour mandat de faire des observations en temps réel pour déceler les comportements problématiques de policiers.
Est-ce que tu vas siéger sur ce comité, Marie-Ève?
Absolument. Je suis très bonne pour regarder, noter des choses observables.
Bravo.
Ces comportements-là problématiques semblent souvent être la norme plutôt que l'exception. Par exemple, il y a la police de Terrebonne qui vient d'être condamnée par le tribunal des droits de la personne a versé 15 000 $ à un homme noir pour lui avoir donné une contravention sans fondement, sans motif valable. Les faits remontent à décembre 2020. Les policiers effectuaient ce jour-là une opération de vérification du port de la ceinture de sécurité et de l'usage du cellulaire au volant. Et donc, en croisant Ted Michel, ils l'avaient rapidement jugé suspect. Ils l'ont donc intercepté, même s'il n'était pas sur son téléphone et que sa ceinture était attachée. Son erreur, il conduisait la voiture de sa conjointe et il a soi-disant soutenu le regard des policiers.
Ben, ça, c'est un fait observable, je pense.
Je pense. Mm-hmm. Les policiers ont essayé de convaincre le tribunal d'avoir eu un motif valable pour remettre ces amendes-là, mais la juge a qualifié leurs explications et je cite « d'invraisemblables et d'incompréhensibles. » Et elle a dit qu'elles étaient, je cite encore, « dépourvues de toute logique.
» Blanc dans les dents, quand même.
Elle est bonne à citer, donc je poursuis. Elle dit « Objectivement, ils n'ont eu aucun motif de soupçonner M. Michel de quoi que ce soit. S'il avait été blanc, les policiers auraient continué leur chemin sans lui porter quelconque attention que ce soit. » C'est assez clair. Ouais. Le juge a aussi ordonné au service de police de Terrebonne de donner une formation assurée par un expert en profilage racial. Et la ville de Terrebonne et son service policier vont aussi devoir recueillir et publier systématiquement les données anonymisées sur l'appartenance raciale perçue ou présumée, donc observable ou pressentie, je sais pas.
Des échantillons de couleurs avec une gradation.
C'est ça, des personnes interceptées par ces policiers. Je termine avec un autre exemple qui implique la super police de Québec cette fois. Il y a Paul McKenzie, un Innu de Malioténam arrêté à Québec en 2023, qui a récemment été acquitté en cour municipale des accusations de conduite avec les facultés affaiblies et de refus d'obtempérer. Je reviens sur les faits. Le 9 avril 2023, Paul McKenzie s'était engagé à sens inverse dans une rue à sens unique. Il est alors interpellé par des policiers après avoir entamé des manœuvres là, pour faire demi-tour et positionner sa voiture dans la bonne direction. Et là, trouvant que M. McKenzie sentait l'alcool, les policiers ont tout de suite commencé une enquête pour conduite avec les facultés affaiblies. Selon l'avocate de M. McKenzie et de sa fille qui étaient dans la voiture avec lui, Le père aurait soufflé 5 fois dans l'appareil de détection d'alcoolémie, montrant chaque fois un taux de 0.
Ouais.
Pourtant, les policiers l'ont mis en état d'arrestation pour avoir refusé de donner un échantillon d'haleine. Comme conséquence, M. McKenzie a perdu son permis de conduire pour une période de 3 mois et la voiture de sa fille a été saisie pour une durée de 30 jours.
J'espère qu'il va être dédommagé au moins.
Ben là, ça c'était à la cour municipale. Donc dans son jugement, le juge de la cour municipale, ce qu'il dit, c'est qu'il mentionne que la poursuite n'a pas démontré un degré là, d'affaiblissement du conducteur, que cette preuve-là doit être établie hors de tout doute raisonnable et que l'odeur est un indice de consommation d'alcool et non une incapacité de conduire par les facultés affaiblies. Le tribunal s'est pas prononcé sur la question de la détention arbitraire et le profilage racial parce qu'il n'y avait pas eu de requête comme telle là, déposée dans ce sens-là à la cour municipale. Mais Paul McKenzie et sa fille poursuivent en parallèle au civil la Ville de Québec et les deux policiers pour un montant de 140 000 $. Il n'y a aucune date là, d'audience qui a encore été déterminée à ce jour.
On leur souhaite bonne chance.
Ouais. Alors, l'été arrive et ça paraît, l'agenda antiraciste est un petit peu plus léger que d'habitude. Je commence avec le lancement d'une brochure de l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue, l'ACPSUD. La brochure qui est titrée « La cantine », en fait, c'est rassemble là, des recettes à cuisiner en prison, des dessins accompagnés de dessins et de slogans de prévention. Toutes ces recettes-là ont été reçues de détenus ou d'anciens détenus et ce sont des recettes qui se font avec les produits disponibles à la cantine en milieu carcéral généralement. Donc c'est vraiment comme si on veut comme un petit livre de recettes de par et pour les personnes touchées par l'incarcération. Donc le lancement de cette brochure-là, c'est demain, vendredi 13, au Comité social Centre-Sud à Montréal. C'est-à-dire autrement connu 1710 Baudry, près du métro Baudry. C'est en formule 5 à 7 et il y aura de la bouffe aussi inspirée des recettes de la dite brochure La Cantine. Je poursuis toujours sur la thématique bouffe avec un barbecue végétarien.
c'est quoi? C'est un calendrier mondain?
C'est organisé par Rage Climatique en soutien à l'Alliance MAMO. L'Alliance MAMO, qu'est-ce que c'est? Ça a été créé par des gardiens et gardiennes du territoire qui sont membres des nations Atikamekw, Innu et Abenaki pour lutter contre la surexploitation et la colonisation de leurs terres, plus particulièrement contre le projet de loi 97 là, sur la réforme forestière. Il y a d'ailleurs un blocage qui est en cours en ce moment à Manawan pour empêcher la machinerie d'entrer sur les sites de coupe. Lors de l'événement, il va y avoir des présentations sur les différentes luttes autochtones en cours au soi-disant Canada. Donc, ce barbecue végétarien, c'est mardi prochain, le 17 juin, à 18h, au Révolte. Les Révoltes, c'est à Montréal également, au 2035 Boulevard Saint-Laurent, au deuxième étage. C'est dans la côte Sherbrooke. Il faut amener de l'argent comptant, évidemment, parce que tous les fonds vont aller à l'Alliance MAMO. Je continue avec une expo cette fois-ci. Cette année, le Centre international de solidarité ouvrière, le CISO, célèbre ses 50 ans, donc 50 années de lutte, de projets éducatifs, de stages internationaux et d'engagement pour la justice sociale ici comme ailleurs. Et donc, pour souligner ça, le CISO a organisé une exposition pour retracer les moments forts de l'histoire de l'organisation et, en ce faisant, une partie de l'histoire du paysage social québécois et international. L'expo s'intitule « Un monde de solidarité, 50 ans de lutte ouvrière internationale ». Ça a lieu jusqu'au 29 juin à l'Écomusée du Fier Monde, 2050 rue Adadaken à Montréal, là aussi dans la côte Sherbrooke. Et je termine avec le lancement de la 16e édition de cinéma sous les étoiles qui va avoir lieu le 25 juin avec musique, bière locale et cinéma documentaire. Le programme de la soirée qui a lieu au Théâtre de Verdure dans le Parc La Fontaine à Montréal est le suivant. à 19h, accueil du public avec bière locale, ambiance musicale assurée par des DJ. Il y aura le lancement officiel du festival un peu avant 21h. Et à 21h, il y aura la projection du film d'ouverture qui s'intitule « The Pickers », qui nous amène dans les champs en Europe où 1 million de personnes migrantes récoltent quotidiennement fruits et légumes dans des conditions plus que précaires. On va évidemment, là, tout au long de l'été, vous faire nos suggestions de documentaires dans le cadre de Cinéma sous les étoiles. C'est ainsi que se conclut cette édition un peu plus courte des Apatrides anonymes en formule 60 minutes. Je vous invite à écouter nos autres balados disponibles sur notre site, sur la page du site de choc.ca ou encore sur notre propre site internet www.apatridesanonymes.info. Je vous rappelle aussi qu'on est diffusé sur les ondes FM du 107,9 de Radio Victoria 2 fois par semaine. Écrivez-nous à apatridesanonymes@commercialresist.ca et suivez notre page FB où on met toutes sortes d'informations. Merci Simon pour ton apport inestimable à cette formule duo.
Oui, parce que ça, je pense que tu aurais eu de la misère. Mais merci à toi pour l'animation.
Ça aurait été un copain de sprint.
Ça aurait été tout un défi. Je me permets juste de rajouter peut-être, je crois que c'est ce samedi, grande marche pour Gaza, métro
Guy
Concordia à 14h à Montréal. Il y en a d'autres dans d'autres villes du Canada et même dans le monde. Là,
c'est métro Guy Concordia ce samedi 14h.
Exactement, c'est ça.
Parfait. La prochaine émission, le 26 juin, va également être en duo avec Mathieu et Simon, puisque c'est à mon tour de partir en vadrouille.
Ben oui, ça a l'air que je suis le seul élément stable de cette émission. Je m'en reprendrai dans les congés plus tard dans l'été.
On va, comme d'habitude, se quitter en musique, plus précisément avec du jazz. On va écouter le trio montréalais au doux nom de Papillon Social Club et la pièce « Le Rave ». Qui est tiré de leur tout dernier album paru en avril et qui s'intitule « Dur de la feuille ».
Ouais, quel titre quand même!
Alors, on vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée.
En écoutant du jazz.